Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La famille, un mot qui résonne fort alors que Noël arrive dans quelques semaines. À propos de la famille, on dit souvent aujourd'hui qu'elle serait menacée ou en tout cas malmenée par la présidence actuelle. Mais y a-t-il un seul modèle de famille et si oui, pourquoi ? Au sujet des menaces qui pèseraient sur la famille, on évoque souvent les questions de la filiation ouverte aux personnes homosexuelles ou la fameuse théorie du genre. Alors afin d'y voir un peu plus clair, je vous propose ce matin une émission de clarification sur toutes ces questions. Voilà pour cette émission ce matin donc sur la famille. Je reçois Mériadec Rivière, vous êtes responsable du secteur politique familial à la CNAF, Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, et vous êtes membre désigné des AFC pour siéger au Haut Conseil de la Famille. Peut-être vous nous redirez de quoi il s'agit. Alexandre Ribeyron, vous êtes... Bonjour Mériadec Rivière.
Bonjour.
Voilà, Alexandre Ribeyron, vous êtes maître de conférence à l'université Paul Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Jeanne-Marie Massé, vous êtes présidente des AFC à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Myriam Barnier-Tranier, vous êtes avocate responsable de Vigie Gender 31, bonjour.
Bonjour.
Pensez à bien parler devant le micro. Voilà, alors on va commencer avec vous, Mériadec Rivière. Je disais en introduction, vous faites partie du Haut Conseil de la Famille. Peut-être avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce Haut Conseil de la Famille ?
Eh bien, le Haut Conseil de la Famille, il va bientôt disparaître. Non, le Haut Conseil de la Famille avait été créé par décret il y a à peu près 4-5 ans, et il regroupait des représentants des associations familiales, des experts, sociologues, etc., des représentants de l'État, et des représentants des grandes centrales syndicales. Ce Haut Conseil de la Famille était chargé de réfléchir sur des questions de famille, il a produit différents rapports, mais il a été supprimé, il va être remplacé par le Haut Conseil de la Famille et de l'âge. Désormais, il y aura trois instances, il y aura le Haut Conseil de l'enfance, le Haut Conseil des seniors de l'âge, et un autre conseil, ce que je trouve d'ailleurs un peu regrettable, c'est qu'au lieu que la famille soit considérée aussi bien les jeunes, les adultes, les personnes âgées, ça va être séparé par tronçon. Si
voilà, en tout cas, donc c'est une espèce d'organe consultatif, c'est ça, pour les différents gouvernements.
C'était
voilà.
Un organe consultatif placé auprès du Premier ministre, le président du Haut Conseil étant d'ailleurs nommé par le Premier ministre.
Très bien.
Voilà,
alors,
c'était le Haut Conseil de la Famille.
Cette précision faite, donc je disais en introduction, aujourd'hui on parle de la famille, on parle des familles, pour éclairer peut-être notre émission, notre débat et notre jugement. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce qu'on peut parler d'une famille, des familles, ou quand on parle d'une ou des familles, qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Mais certes, la distinction peut être dangereuse. La famille est un terme générique. La famille est un terme générique. Ce sont finalement les personnes qui sont liées ensemble par un lien de filiation d'une manière générale. Bon. Et puis alors, il y a effectivement ce qu'on appelle des familles, car s'il y a une définition générique de la famille, il est vrai qu'il peut exister plusieurs types de familles. Par exemple, il y a les familles monoparentales, il y a les familles recomposées, il y a les familles dites traditionnelles. Tout ça, ce sont bien des familles. Et nous, aux AFC, on n'a jamais considéré que, par exemple, les familles monoparentales ou les familles recomposées n'étaient pas des familles. Mais ça n'empêche pas qu'il existe quand même une définition générique de la famille.
Alors, là-dessus, justement, est-ce que c'est propre aux AFC ? Est-ce que c'est propre, donc, les AFC, associations familiales catholiques ? Est-ce que c'est propre, en fait, aux chrétiens d'avoir cette définition de la famille ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore une définition commune de la famille en France ? Et si oui, quelle est-elle ? Ou est-ce qu'en fait, on a aujourd'hui des définitions de la famille ?
Ben, écoutez, moi, personnellement, je suis ici pour m'exprimer au nom des AFC. Je n'ai pas de qualité pour m'exprimer au nom de d'autres courants philosophiques ou intellectuels. Mais je pense néanmoins qu'il y a bien une seule conception de la famille, même s'il y a encore une fois des structures. On peut distinguer la conception de la famille d'une part et les structures familiales d'autre part. Bon, il est vrai que d'autres courants de pensée, je pense notamment à l'Union des familles laïques, par exemple, elle se refuse à considérer la famille comme étant la cellule de base de la société. Elle a une conception beaucoup plus individualiste de la famille, de même également en Scandinavie, dans les pays de l'Europe du Nord, où il y a un individualisme très fort, peut-être que l'individualisme des droits. Il est vrai que cette conception globale de la famille n'est pas assumé dans d'autres pays, dans d'autres courants de pensée.
Alors, les AFC font partie donc du paysage des associations familiales, la plus grande, regroupée sous le label de l'Union nationale des associations familiales. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une position commune des associations familiales sur ce sujet, ou est-ce que justement il y a de telles divisions que, en fait, même sur la définition même de la famille aujourd'hui, dans l'interlocuteur, on va dire, du gouvernement, il y a un peu de flottement.
Bon, alors l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Ça a été créé par la loi en 1945. C'est d'ailleurs pas une association, c'est une institution. Et l'objet, c'était de regrouper l'ensemble des familles pour être l'interlocuteur des familles auprès des pouvoirs publics. À l'UNAF, il y a des mouvements familiaux de sensibilité tout à fait diverses. Mais je peux quand même dire qu'à l'exception de l'Union des familles laïques et du Conseil national des familles laïques, qui sont deux associations laïques, à l'exception de ces deux associations, il y a quand même un consensus parmi toutes les associations familiales pour avoir une conception commune de la famille.
Alors l'autre chose dont je voulais parler avec vous, c'est de la loi Taubira. Alors évidemment, à cette antenne, on en a beaucoup parlé quand ça a été l'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu retombé, quoique il y a eu cette grande manif de la manif pour tous, donc il y a quelque temps, Jeanne-Marie Massé, rappelez-moi, c'était le
16 octobre.
Le 16 octobre, voilà, qui a réuni
200 000
personnes selon les organisateurs, et oui. Combien 20 000 selon la police.
Un peu comme d'habitude.
Voilà, 20 000 selon la police. Toujours est-il que cette loi Taubira, est-ce qu'elle a changé quelque chose à la définition de la famille? Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu d'histoire là-dessus? Alors, c'est pas encore vraiment de l'histoire, mais si oui, qu'est-ce que cette loi Taubira a induit comme changement dans la conception même de la famille ou dans sa définition?
Alors, je vous avais dit quelque chose qui est très juste, c'est plutôt la perception, c'est-à-dire qu'une loi ne peut pas modifier la famille, car la famille est une institution millénaire, qui a un caractère anthropologique, qui dépasse, qui va au-delà des simples mouvements législatifs. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a changé probablement la perception de la famille. La famille demeure toujours ce qu'elle est, c'est-à-dire une institution qui est la cellule de base de la société, qui est le premier lieu d'éducation des enfants, et qui est le premier lieu dans lequel se joue la socialisation de l'enfant, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant pour vivre avec les autres. En revanche, il est vrai qu'elle a changé vraiment la perception de la famille, parce qu'elle a sensiblement modifié, c'est là la chose la plus importante, finalement les règles de la filiation. Désormais, la filiation biologique n'est plus considérée comme primordiale, on considère qu'il peut y avoir d'autres types de filiation, et c'est notamment à la suite des travaux d'une sociologue qui s'appelle Madame Irène Théry, qui fait beaucoup parler d'elle, qui n'est pas la seule sociologue à avoir travaillé sur la famille, mais on n'entend guère qu'elle. Et, par exemple, Madame Irène Théry a cette phrase qui est tout à fait fausse, elle a dit « c'est l'enfant qui fait famille », avec une syntaxe française que je trouve d'ailleurs assez déplorable. Or, ce n'est pas vrai que c'est l'enfant qui fait famille. Ce n'est pas vrai. Un couple sans enfant, c'est une famille. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les enfants sont constitutifs, sont membres d'une famille, du fait du lien de filiation. Et par exemple, désormais, on ne parle plus du parent biologique, on parle du parent social. Bon, là aussi, c'est faux. Par exemple, une famille monoparentale, c'est bien une famille, parce que même si l'enfant est privé d'un des parents, l'enfant connaît sa filiation. Et en plus, dans 90% des cas, les liens ne sont pas rompus avec son autre parent. Il y a souvent un droit de visite. Et surtout, l'enfant sait se situer dans la chaîne de la filiation. Alors que le problème, par exemple, dans la PMA, pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, on prive délibérément, dès sa conception, un enfant de son droit à avoir un père. Et de ce fait, l'enfant ne peut plus se situer pour construire son identité personnelle dans une chaîne de filiation. Et c'est encore pire, bien évidemment.
Donc vous voulez dire que la loi Taubira, en fait, a acté la parenté sociale qui serait supérieure à la parenté biologique,
Exactement. Exactement, c'est tout le discours, un peu en quelque sorte, d'Irène Théry. Alors, que désormais, la filiation biologique n'est pas importante, peu importe d'où vient l'enfant, ce qui compte, c'est la filiation sociale, c'est le parent social, celui qui a la charge de l'éducation de l'enfant. Or, il va de soi que les parents ont la charge de l'éducation de leurs enfants, et ça ne saurait justifier que l'on prive délibérément, ab initio, dès la conception, un enfant de son droit à connaître sa filiation pour construire son identité personnelle.
Alors, Mériadé Crivière, c'est vrai que sur... merci de ces éclairages. Hein, pour certains, ce sont des choses familières, pour d'autres, peut-être un peu moins. Donc, c'est bien de le réexpliquer. Évidemment, on fait le choix, nous, à cette antenne-là, de vous donner la parole. Les AFC ayant quand même quelques affinités avec Radio Présence ou le sens inverse. La question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, en fait, de parler dans le désert ? Parce qu'en fait, cette loi ayant acté, en fait, cette supériorité, quelque part, de la parenté sociale sur la parenté biologique, est-ce que les AFC et autres associations maintenant sont pas condamnées quelque part à se taire en fait et puis à faire avec ce qui est devenu la loi?
Alors d'abord, que les AFC soient condamnés à se taire, certainement pas. Toute association, tout groupe a le droit de continuer à s'exprimer. Il y a justement une chose qui est assez extraordinaire. On nous dit parfois, mais pourquoi est-ce que vous contestez? La loi a été votée. Ce n'est pas parce qu'une loi a été votée qu'on n'a pas le droit de continuer à la contester. Ce qui serait un délit, par exemple, ce serait de s'opposer à des mariages entre personnes du même sexe, ou par exemple à s'opposer avec violence à de la procréation médicale assistée. Ça, ce serait un délit. Mais toute association, tout citoyen, a le droit d'exprimer son opinion à l'égard d'une loi. Alors sinon, le débat d'idées, la libre expression des opinions n'existerait plus en France. On peut contester une loi, mais évidemment, on n'a pas le droit de recourir à des moyens violents, illégaux, pour empêcher l'application de la loi tant qu'elle existe.
Alors, peut-être une dernière question avant qu'on fasse, enfin, deux dernières questions avant qu'on fasse une première pause musicale. Cette loi Taubira, est-ce que les AFC réclament son abrogation? Est-ce que les AFC sont la seule association familiale, la seule confédération nationale d'associations familiales à demander cette abrogation? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, quel est un peu, l'état des forces en présence en cette année d'élection présidentielle?
Écoutez, je pense que les AFC ne sont certainement pas la seule association à réclamer l'abrogation de la loi Taubira. Car si c'était le cas, il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations en 2013 où on a réuni près d'un million de personnes, et encore tout récemment, comme vous l'avez rappelé, la manifestation du 16 octobre. Parce que le mouvement de contestation de la loi Taubira va bien au-delà des adhérents des associations familiales catholiques.
Oui, mais est-ce que officiellement c'est la seule association qui demande ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres associations familiales?
Alors écoutez, là ça me gêne un petit peu parce que, encore une fois, moi je ne suis pas habilité à parler au nom des autres associations familiales et je risquerais de dire une bêtise. Je crois pouvoir dire que d'autres associations familiales qui ne se situent pas dans la mouvance catholique demandent également l'abrogation de la loi de Taubira, mais ça me gêne beaucoup de les citer parce qu'encore une fois, je ne suis pas habilité à parler en leur nom, même si je sais de sources sûres que d'autres associations demandent également l'abrogation de la loi.
On comprend.
Je vais d'ailleurs rapidement faire une petite incidente à cet égard. On nous dit que ce n'est pas possible d'abroger la loi Taubira. Si, c'est possible. Juridiquement, c'est possible. Ce qu'a fait une loi, une autre loi peut le défaire. Bien évidemment, ça ne serait pas de manière rétroactive. Parce qu'on nous dit, vous n'allez pas démarier les gens qui sont mariés. Bah, évidemment, non. Il n'est pas question de démarier des couples de même sexe, ça va de soi. Mais ça serait une abrogation pour l'avenir. Et j'ajouterais enfin que cette abrogation, elle ne devrait pas être une abrogation sèche. Nous pensons que, parallèlement à l'abrogation de la loi Taubira, il faudrait prendre en compte des mesures qui permettent de sauvegarder les intérêts patrimoniaux, les intérêts civils des couples de même sexe. Car nous ne nions nullement l'affection que peuvent se porter l'une à l'autre des personnes de même sexe, mais que cette affection ne crée pas le droit. Autrement dit également, de même pour l'enfant, ce n'est pas parce que des gens veulent un enfant qu'ils y ont droit. Le désir d'enfant ne crée pas le droit. Moi, je connais beaucoup de couples hétérosexuels ou homosexuels qui seraient désireux d'avoir un enfant. C'est pour eux une très grande souffrance, mais c'est pas ça ce qui justifie le droit à l'enfant. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, et je terminerai, lorsqu'il a validé la loi Taubira au plan constitutionnel, il a quand même pris le soin d'écrire qu'il ne saurait y avoir un droit à l'enfant.
Merci beaucoup, Mériadé Crivière, toutes ces précisions. Avant qu'on fasse une pause, Jeanne-Marie Massé, vous vouliez nous parler peut-être d'une pétition en ce moment qui avait cours.
Est-ce que
vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
C'est la pétition Mom, Dad and Kids, une pétition au niveau européen qui a un quota par pays et la France n'a pas encore rempli son quota. C'est une pétition qui demande à ce que l'Union européenne définisse le mariage, une loi sur le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Et la date de limite est le 15 décembre. C'est une pétition très sérieuse parce qu'on doit donner son numéro de carte d'identité ou de passeport pour être sûr que les gens ne votent pas deux fois. Et la France est en retard pour le nombre de personnes qui demandent à ce que cette loi passe au niveau européen.
Voilà, donc l'appel est lancé. On va faire une première pause et puis après on va regarder un petit peu plus près ces histoires de théorie du genre et de filiation pour des personnes homosexuelles. En tout cas, merci beaucoup Maria Descrivière de ce long point fort, fort intéressant en cette première partie. Ce matin, donc, cette émission sur la famille, voilà, en ce jour du troisième débat, donc, de la primaire des Républicains, et puis à la veille du premier tour, donc, de l'élection du futur candidat des Républicains, et en cette année d'élection présidentielle, on fait un peu un point sur la situation de la famille ou des familles en France. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, pardon, si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Mériadec Rivière, qui est responsable du secteur politique familial à la Confédération nationale des associations l'Association familiale catholique, Alexandre Ribeyron qui est maître de conférence à l'Université Paul Sabatier, Jeanne-Marie Massé qui est présidente des AFC de Toulouse et Myriam Barnier-Tranier à qui on va donner la parole tout de suite, qui est avocate responsable de VG Gender 31, un collectif qu'elle nous présentera plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Justement, parlons du genre. Alors, c'est pas tout à fait à vous que je vais donner tout de suite la parole, Jeanne-Marie Massé, vous vouliez nous parler d'une actualité locale qui dit l'actualité de la théorie du genre en France et puis dans notre région.
Oui, j'ai l'impression que sa diffusion, la théorie du genre, se porte bien. On en a eu un exemple éclatant. À la Faculté libre de lettres à Toulouse, le 4 novembre, où il y avait un colloque sur la littérature jeunesse, les adhérents des AFC sont allés pour entendre ce qui se passait, et c'était absolument scandaleux dans cette enceinte. Je ne veux pas faire de la publicité pour les livres qui ont été évoqués, les écrivains qui étaient là.
Qu'est-ce qu'il y avait de scandaleux en fait ? Qu'est-ce qui a été dit ? C'est-à-dire, c'était un colloque sur quoi en fait déjà ?
Sur de la littérature jeunesse, d'accord. Oui, et qui était uniquement tourné sur le sexe, une personne de même sexe. La responsable de l'équipe du département genre et éducation à l'ESPE, c'est-à-dire les ex-IUFM.
Voilà, lieu, institut de formation.
Voilà. A décrypté un film qu'elle passe, un film qui a été fait par le planning familial, qui décrypte comment sont faits les trucages pour les films pornographiques. Elle pense que c'est très intéressant pour l'instruction des élèves de l'UFM. Et alors surtout, ce qui était extraordinaire, elle a dit que maintenant les livres pour la jeunesse étaient tout à fait édulcorés, les titres étaient édulcorés pour ne pas mettre la puce à l'oreille des parents, et que des titres comme « Papa porte une robe », on ne le trouve plus, parce que justement, on avance masqué, sans vouloir éveiller le...
Rappelez-nous, qui était cette femme, vous dites c'est...
Je n'ai plus son nom en tête.
Non, pas forcément son nom, en tout cas, donc elle représentait l'Institut de formation.
L'Institut de formation des maîtres, le SPE, voilà. Les responsables de l'unité genre et éducation.
Voilà, donc ça c'est l'actualité, on va dire, toulousaine, et puis plus largement un peu de la région Occitanie. Sur la théorie du genre, déjà, Myriam Barnier-Tranier, est-ce que vous pouvez nous redire c'est quoi la théorie du genre ? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Qu'est-ce que vous donneriez comme définition ?
La théorie du genre... L'objectif, c'est normalement la personne effectivement, lorsqu'elle naît avec une identité sexuelle. L'identité sexuelle, elle se divise entre l'homme et la femme, voilà. Et donc, il peut y avoir ensuite, dans le développement, des affections où un homme ne va pas aimer une femme, mais va aimer un autre homme. Mais ça ne conteste pas l'idée que cet homme reste un homme et cette femme reste une femme. Donc c'est vraiment l'altérité sexuelle. La théorie du genre, en fait, part d'un constat, c'est-à-dire qui est vraiment un phénomène minoritaire, en disant, puisqu'il existe effectivement des hommes qui n'aiment pas de femmes et des femmes qui n'aiment pas de hommes, donc ça prouve bien que l'identité sexuelle n'existe pas. Ce qui existe, effectivement, c'est l'orientation sexuelle, et ensuite, avec un autre concept, c'est le genre, qui serait effectivement une identité sociale. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées, et pour vos éditeurs, puisque c'est toujours un peu difficile de résumer des questions qui partent dans tous les sens. Moi, j'invite à lire un ouvrage de Bérénice Levé qui s'appelle « La théorie du genre ou le monde rêvé des anges ».
Qui est philosophe.
Voilà, qui est philosophe. Donc vraiment...
L'ouvrage préfacé par Michel Onfray.
Donc exactement, par Michel Onfray. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que chaque fois que l'on énonce effectivement ces constats, la première chose que l'on vous dit, oui, mais ça... c'est parce que ce sont des groupes religieux qui développent cette idée et de lutte contre la théorie qui est en fait une idéologie. Alors, avec les études de genre, c'est une idéologie, c'est-à-dire on nie le réel. Le réel, c'est qu'effectivement, pareil pour la filiation, il faut un homme et une femme qui s'aiment et il y a une attirance majoritairement. Et il y a quelquefois, effectivement, où ça ne se passe pas comme ça se passe dans les 90%. Et donc, j'insiste sur le fait que nous avons, contre le, tout au moins pour démontrer ce que c'est que ce concept de genre, et surtout le fait que ça va nous entraîner dans un bricolage, un constructivisme vraiment, vraiment abscon. Vous avez des personnalités comme Sylviane Agacinski.
Alors, Sylviane Agacinski, il faut redire, c'est pareil, philosophe,
épouse de Lionel Jospin, dont on ne peut pas dire qu'elle soit quand même le tenant de l'Église catholique, dont vous avez bien entendu Michel Onfray.
Donc voilà, un philosophe polémiste, athée,
voilà, etc. Alain Finkielkraut, et vous avez Jean-Pierre Le Goff. Jean-Pierre Le Goff qui a créé un mouvement qui s'appelle De Penser, un groupement qui s'appelle Politique Autrement, qui est domicilié à Paris, qui lui aussi effectivement a dit que c'était une illusion de vouloir faire croire que l'on peut, avec la volonté, être ce que l'on veut, parce qu'en fait, à travers ce concept de genre, ce que l'on voit poindre, c'est le sentiment de la toute-puissance. C'est-à-dire, je ne suis pas limité même par mon identité sexuelle, par ma biologie, je suis née en tant qu'homme, mais mon esprit peut effectivement m'amener à changer ce qui a jusqu'ici été considéré comme une réalité intangible et qui demeure une réalité.
Alors avant d'aller plus loin, moi j'avais une question, c'est que j'avais entendu dire que sur la théorie du genre, il fallait pas faire une erreur, c'est-à-dire que la théorie du genre aussi partait aussi du postulat qu'il y avait une forme de construction sociale aussi de l'identité sexuelle.
Tout à fait,
et que donc on pouvait pas nier, nous, j'allais dire vous qui êtes en plateau, nier le fait qu'il y ait une part de construction sociale.
Ah mais on ne le nie pas, c'est-à-dire que on est parti, en fait, pour bien comprendre, c'est au début on vous dit... vous ne pouvez pas dire que tout est biologique. Donc le biologique, c'est effectivement un sexe biologique masculin d'homme et un sexe de femme. Là, dans l'idéologie du genre, on passe du tout est biologique à plus rien n'est biologique. C'est-à-dire je ne suis limité par rien. Donc je me construis. Et si je me construis, ça fait penser à ce que disaient les Grecs, c'est-à-dire l'hubris. L'hubris qui fait que je suis auto-engendré. Voilà. Et ce qui restait dans un fantasme, en fait, ça veut être mis en application dans le droit. Et on se retrouve avec des situations qui sont impensables pour les enfants.
Justement, alors, donc ça c'est la théorie, mais on entend souvent dire, enfin souvent quand un certain nombre de personnes, entre autres le pape François, qui en revenant de Bakou, donc le 2 octobre dernier, lors d'un voyage pontifical en Azerbaïdjan, a dit la chose suivante. Il a parlé du sournois endoctrinement de la théorie du genre qui se ferait via des manuels scolaires en France et ailleurs. Il a parlé d'une guerre mondiale pour détruire le mariage. Alors derrière, tout le monde est monté au créneau, ministre en tête, disant qu'en fait cette théorie n'existait pas, que c'était un fantasme justement des chrétiens ou autres. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est? Est-ce que de fait il y a une diffusion de cette théorie du genre dans les écoles?
Complètement. Il suffit de reprendre les manuels, puisqu'effectivement on a essayé de brosser sans doute maladroitement ces théories. Je précise que chaque fois que nous parlons avec des personnes qui sont un peu éloignées de ces débats, la première chose qu'elles vous regardent en vous disant mais attendez, c'est pas possible. Voilà, elles ne vous croient pas. Il y a un effet de sidération.
Elles vous croient pas, c'est-à-dire que la théorie du genre serait...
Voilà, non, mais que l'on puisse soutenir que, par exemple, une personne puisse effectivement se construire elle-même et qu'elle n'est plus tenue par son identité sexuelle. C'est-à-dire on bannit le terme d'identité sexuelle et on lui substitue le terme de genre. Et effectivement, quand vous parlez de genre, déjà vous êtes dans les concepts de la novlangue, dans les concepts des précurseurs, enfin de ceux qui veulent l'instaurer, c'est-à-dire Éric Fassin, vous les avez partout. Voilà. Et pour reprendre...
Alors, dans les écoles. Où est-ce qu'on en est?
Voilà.
De fait, c'est marginal. Qu'est-ce qui existe dans les cours élémentaires, en primaire?
Mais c'est-à-dire, dans les écoles, il suffit de prendre, pour cadrer un peu nos propos, parce que sinon, là, nous dérivons un peu, je reprendrai exactement ce qui se fait. Donc, c'est le manuel scolaire. Alors, le manuel scolaire...
Plusieurs manuels scolaires.
Je les ai. J'ai demandé, effectivement, à Esther Pivet, qui est la coordinatrice Vigie Nationale, puisque nous sommes sur sur le 31. Donc nous travaillons ensemble et nous passons les informations. Et donc nous avons regardé les manuels scolaires et voilà, le mot et son usage. Vous avez sexe, genre et sexualité. Joli, hein, vous l'avez. Il ne faut pas confondre le sexe qui définit notre identité biologique et le genre qui est notre identité culturelle. La sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Voilà. Alors, là, vous avez les thèmes.
Oui, mais c'est quoi ? C'est dans un manuel, à destination
oui,
quoi, des primaires, des collèges ?
Quatrième. Au niveau de la quatrième.
Donc, d'accord, mais on va dire ensuite, c'est un manuel parmi d'autres, donc libre au prof de ne pas l'utiliser dans ces cas-là. C'est...
Oui, non, mais quand on vous dit que l'idéologie du genre n'est pas diffusée à l'école et que l'on amène les manuels scolaires où c'est exactement les préceptes, je veux dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on appelle l'idéologie du genre à l'école ?
Alors,
c'est les manuels scolaires.
Qui décide,
donc,
qui décide ? Est-ce qu'il y a eu des directives ministérielles demandant à ce que la théorie du genre soit enseignée aux enfants en primaire, au collège ou autre ?
Ils ne parlent pas de théorie du genre. C'est ça. C'est les mots qui sont effectivement, j'allais dire presque falsifiés. C'est-à-dire que l'idéologie du genre, moi j'appelle le terme idéologie, l'idéologie du genre va être diffusée sans que l'on emploie le mot. Mais à partir du moment où vous mettez dans des manuels, on ne parle plus de sexe, d'identité sexuelle, mais on va commencer à parler de genre, mais vous voyez bien pourquoi cette substitution de mots.
D'accord, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des directives ministérielles ou en fait, est-ce que c'est laissé à la discrétion des directeurs d'établissement, des enseignants,
etc. Non, mais les directives, c'est pas d'introduire l'idéologie du genre nominativement. Les directives, c'est de dire, l'école doit devenir effectivement un lieu où on apprend le principe d'égalité entre hommes et femmes et le principe d'égalité des sexualités. Voilà. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que l'école, moi je suis effectivement la résultante de l'école de la Troisième République de Jules Ferry. Voilà. Donc c'est cette école-là que nous défendons avec Natacha Polony, Alain Finkielkraut, bon, que l'on connaît. Et donc nous disons, notre génération a eu la chance encore d'être dans une école où effectivement on apprenait à lire, on apprenait la beauté de la littérature, apprenait à compter au niveau de la primaire. Voilà. Et nous disons, c'est cette école-là que nous avons connu et qui nous a permis d'accéder au métier où nous sommes actuellement. C'est-à-dire que beaucoup de ma génération, chez les années 60, nous sommes d'un milieu modeste, très modeste, et nous sommes arrivés à des professions. Bon, moi, je suis avocate, d'autres sont médecins. Donc c'est cette école-là. Mais l'école, elle nous a donné les outils pour parvenir à nous réaliser et ensuite, sur un plan professionnel, à développer la méritocratie. Or, quand vous écoutez maintenant ce que devient cette école, c'est, on vous dit, l'école doit servir à lutter contre les inégalités. Et les inégalités entre hommes et femmes. Donc je dis, un, c'est plus l'école de Jules Ferry, puisque l'école de Jules Ferry, c'était de dire, face aux élites de l'époque, 1880, qui étaient axées sur l'origine sociale et sur l'origine sociale et l'argent, quoi, en fait. On va substituer une élite fondée sur la méritocratie. Et la méritocratie, on va leur donner les moyens, effectivement, cet enfant paysan à l'époque, beaucoup, de petite extraction, on va lui permettre de passer les différentes étapes pour aboutir à une situation.
On a bien compris. Hein.
Voilà. Mais ça, pour moi, personnellement, c'est le fer de lance. Dire, on a dénaturé effectivement l'école républicaine. Maintenant, ça devient un lieu de propagande. Ça n'a pas lieu d'être.
On a bien compris. Mériel Écrivière, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce qui vient d'être dit à propos de la théorie du genre avant qu'on passe à un nouveau sujet ?
Non, j'ai malheureusement oublié le nom de la. Oui, mais je crois qu'elle a tout dit à la fin.
On vous entend pas bien du tout, hein. Il faut parler de...
Là, vous m'entendez mieux,
On vous entend, allez-y. Le commentaire.
Bon, oui, moi, la personne là qui vient de s'exprimer, dont j'ai malheureusement oublié le nom.
Myriam Barnier-Traignier, Vigie 31, Vigie-Gender 31.
Elle a dit exactement ce qui se passe. Je crois que le véritable problème, c'est que sous couvert de lutter en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, sous couvert de lutter pour l'égalité des sexes, d'ailleurs je parle bien de sexe et non pas de genre, c'est pas un gros mot de parler de sexe, sous couvert donc de militer en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, sous ce couvert, en réalité on est en train de manière tout à fait insidieuse de développer peut-être pas une théorie, mais en tout cas certainement une idéologie du genre qui a pour but effectivement de lutter contre la réalité humaine dans son essence même. Et ça va très loin. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a de ça deux jours, le gouvernement, en la personne de Mme Rossignol, a lancé un plan d'action auprès des personnels de la petite enfance, de formation, pour lutter contre les stéréotypes de genre dès la crèche. Et ceci, en application d'un rapport de l'IGAS, notamment piloté par Mme Brigitte Grézy, qui dit que...
Madame Brigitte Grézy, qui est-ce? Parce que là, il ne faut pas que ça tourne à l'émission de spécialiste.
Bon, ben, Madame Brigitte Grézy, c'est une sociologue, et c'est surtout une femme qui est membre de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales.
D'accord, précision faite. Allez-y jusqu'au bout de votre pensée dans ces cas-là.
Ben alors, Madame Brigitte Grézy, par exemple, dans ce rapport, c'est extraordinaire. Pourquoi dit-elle qu'il faut lutter, soi-disant, contre les stéréotypes de genre dès les crèches? Parce que dans ce rapport, il y a ce mot absolument extraordinaire. Malheureusement, 63% des enfants échappent à l'action publique avant l'école. C'est-à-dire que, autrement dit, elle reproche aux parents de ne pas lutter contre les stéréotypes de genre. Donc, il faut que ce soit les personnels des crèches, les personnels de la petite enfance qui fassent cette action, d'où la formation que le gouvernement envisage de donner aux personnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les nounous dans les crèches, pour lutter contre les stéréotypes de genre. Et c'est finalement, là aussi, la traduction concrète de la fameuse formule de Vincent Pillon, ministre de l'Éducation nationale, qui disait qu'il fallait arracher l'enfant aux déterminismes familiaux, sociaux, religieux, etc. Autrement dit, ce n'est plus les parents qui ont la charge de l'éducation de l'enfant, c'est la puissance publique, et comme 63% des enfants échappent à l'action publique avant l'entrée dans l'école, eh bien, il faut faire une action dans les crèches. Je ne sais pas si Madame l'avocate partage ce point de vue, mais c'est exactement cela.
J'imagine que oui. On va faire une deuxième pause musicale après ces précisions faites donc sur le genre. Et puis dans la troisième partie de l'émission, on parlera des questions de filiation, et puis on redira un mot de vos différentes associations, surtout de l'IPEF dont on n'a pas parlé pour l'instant.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, cette émission donc sur la famille, voilà, en cette année d'élection présidentielle, faire un peu un point sur ce qu'on entend par famille, là où les familles, et puis les questions donc de théorie du genre, et les questions, je l'avais dit en introduction, de la filiation, et entre autres donc de l'ouverture possible la procréation médicale assistée ou de l'adoption à des personnes homosexuelles. Je rappelle que nous sommes avec Mériadec Rivière, qui est responsable du secteur familial à la Confédération nationale des associations familiales, Alexandre Ribéron, qui est maître de conférence à l'université Paul Sabatier, Jeanne-Marie Massé, qui est présidente des AFC de Toulouse, et Myriam Barnier-Tranier, qui est avocate et responsable de Vigie Gender 31. Alors, j'en ai parlé en introduction, donc il faut quand même en parler, les questions de filiation. C'est important pendant cette élection présidentielle, parce qu'on imagine que les candidats vont quand même se positionner sur ces questions de PMA, d'adoption pour des personnes homosexuelles, que réclame un certain nombre d'associations comme une suite logique la loi Taubira. Là-dessus, Alexandre Ribéron, quelles seraient vos remarques ou vos mises en garde ?
Alors, disons que je ferai une petite approche assez générale, c'est-à-dire que c'est une question sur la filiation qui dépasse largement les personnes homosexuelles. En fin de compte, on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que la filiation ? Comment est-ce qu'elle est perçue par nos contemporains ? La filiation, il me semble qu'elle revêt plusieurs significations. Elle est à la fois synonyme de procréation, de lien de parenté institué, hein, ou bien également de parentalité. Donc on va essayer de regarder un petit peu à quoi correspondent ces choses. La procréation, c'est lié à la biologie, mais ça peut être complètement indépendant de la filiation, qui, elle, est le lien juridique. La filiation, c'est vraiment le lien juridique. Quand vous adoptez un enfant, vous n'avez pas de participation biologique dans cet enfant. Néanmoins, cet enfant adopté est votre fils ou votre fille. Il y a aussi la question de la parentalité, c'est-à-dire, en fin de compte, la parentalité, on est plutôt dans l'éducation des enfants. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, ces liens parentaux qui formaient la famille, c'était justement le couple qui formait la famille et non pas, comme l'a dit tout à l'heure le précédent intervenant, l'enfant, voilà, tout à fait, qui fondait la famille. Globalement, pour la très grande majorité des familles, vous aviez l'origine biologique, la filiation et la parentalité qui se superposaient.
Alors que vous dites qu'aujourd'hui, il y a une construction de la parentalité.
Alors, c'est ça ? Aujourd'hui, il y a une construction de la parentalité, en grande partie. Il y a aussi de grands changements au niveau de la filiation, parce que de nombreuses familles subissent des phénomènes de recomposition, de familles monoparentales, et on se trouve face à un problème qui est, il y a des réalités diverses, il y a des lois, et comment essayer de mettre tout ça ensemble, sachant qu'on a quand même, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est problématique dans notre société, c'est que dès qu'on a une différence de traitement, on considère que derrière vous avez une inégalité, et que cette inégalité, il faut forcément la faire disparaître. Donc on se trouve aujourd'hui, aussi bien pour des couples homosexuels que pour des couples hétérosexuels, dans un désir d'enfant, mais ce désir d'enfant, on a parfois l'impression, malheureusement, que l'enfant est perçu comme un objet, comme quelque chose à avoir, au détriment du bien de l'enfant. Donc aujourd'hui, le désir, souvent, est assimilé à un droit.
Alors un objet, disons que c'est...
Enfin, oui, c'est assez fort comme...
C'est assez fort, parce que probablement que des personnes homosexuelles qui demandent en fait l'adoption ou la possibilité d'avoir recours à la procréation médicalement assistée ne les considèrent pas comme des objets. Alors pourquoi vous utilisez ce terme ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense, je suis en tant, d'observateur de la société un petit peu actuelle, et j'ai la nette impression qu'on assiste à une réification, une chosification de la personne humaine, Hein. Pas uniquement d'ailleurs, je tiens à le dire, des enfants, mais également des personnes. Si je reprends certaines expressions du pape François, quand il parle de culture du déchet, on est typiquement, en parlant des personnes justement, on est typiquement dans cet état d'esprit-là.
Alors, Meredith Rivière, sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui, François Hollande aurait dit en off qu'il était prêt à aller plus loin, en tout cas pour la PMA, donc pour des personnes homosexuelles, mais on a l'impression que voilà, il s'est freiné suite à la levée de bouclier autour de la loi Taubira. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou craindre à l'occasion de ces élections présidentielles?
Ben là, j'avoue que je ne peux pas dire en marque de café. Bon, il est certain que François Hollande est partisan de la protection médicale assistée pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la PMA sans père. Parce que je vous rappelle que la PMA, c'est la procréation médicale, c'est-à-dire c'est une possibilité donnée à des couples hétérosexuels en cas d'infertilité médicale dûment constatée. Or, dans le cas d'un couple de femmes ou d'une femme célibataire, ce n'est pas une infertilité médicale. Et ce serait donc créé, comme on l'a dit, la PMA sans père, parce que l'enfant, ainsi conçu, n'aurait pas de père, n'aurait aucun père. Alors que dans un couple hétérosexuel, l'enfant a un père. Il a un père et une mère. Alors cela dit, que va faire François Hollande? Moi, je n'en sais rien. On peut avoir deux hypothèses. Il peut considérer qu'il veut remobiliser un électorat de gauche pour se positionner à gauche, ou à l'inverse se dire, bon ben écoutez, compte tenu des manifestations qui ont eu lieu, c'est pas la peine d'aller au Capitole. J'avoue que je suis incapable de dire.
Voilà, vous n'êtes pas analyste politique, en effet. Alors peut-être Jeanne-Marie Massé, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les AFC ont prévu pendant cette campagne présidentielle? Quelles vont être les différentes actions des AFC? Alors vous n'êtes peut-être pas toutes les détaillées, mais au moins que nos auditeurs aient en tête.
La Confédération a édité des fiches sur sept problèmes différents. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'éthique, la biologie du corps, le travail, la famille, l'éducation, etc. Des fiches qu'il faudrait que nos adhérents s'approprient afin d'aller démarcher les candidats aux législatives. Alors on va mettre en place à Toulouse des petits ateliers avec des jeux de rôle et des gens qui sont un peu rompus à la chose publique qui viendront nous former pour justement entreprendre ces démarches auprès des candidats. Parce que les AFC ont ce site particulier, qu'ils ont un pied sur le parvis de l'église et l'autre sur le perron de la mairie. Donc avec la doctrine sociale de l'église sur laquelle on s'appuie, on va aller voir les candidats pour leur parler de la famille.
Même question pour Vigie et Gender, est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont prévues à l'occasion de ces élections présidentielles? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, mobiliser les gens? Est-ce que vous lancez un appel?
L'appel que... oui, là vous me prenez un peu de cours. Un appel... auprès de...
Est-ce qu'il y a une mobilisation particulière qui est prévue à l'occasion de ces élections présidentielles de Vigigender, ou est-ce que vous allez mener des actions particulières ou pas?
C'est... Non, mais Vigigender, c'est un collectif qui réfléchit sur la progression l'idéologie du genre dans l'école, et qui effectivement aussi a pris position pour indiquer que la GPA, c'est une forme d'esclavage moderne, c'est une instrumentalisation de la femme et de l'enfant. Et voilà, donc par rapport aux primaires, par rapport aux élections, on s'y intéresse, mais en tant que citoyen personnel.
Voilà, vous serez donc, vigilant comme le nom de
voilà,
votre collectif.
Vigie, ça dit que ça fait penser, vous savez, dans un capitaine avec la vigie, c'est-à-dire nous sommes en fait des lanceurs d'alerte. Nous disons, attention, entre le discours qui est affiché et l'action qui est menée, il y a un gouffre. Voilà, et je voudrais, si on n'a pas eu le temps, n'ayant pas l'habitude, n'étant pas rodé à la radio, voilà, je voudrais pour montrer justement ce qui se passe aussi, vous avez une hypersexualisation au sein de l'école, c'est-à-dire qu'il y a un constat, il y a peu de temps, on a montré que les enfants qui rédigeaient une dictée en 1985, aujourd'hui la même dictée, qui était un texte hyper simple, il y avait je crois 18 fautes sur une dictée qui était d'un niveau qui avant, il y a 30 ans, aurait suscité peut-être une ou deux fautes. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Voilà. Et face à ce constat, on ne veut pas entendre de dire il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut former des citoyens de demain qui aient une pensée libre et éclairée, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de voir que à la sortie de l'école, avec tous les moyens qui sont donnés, ils n'arrivent plus à lire et à comprendre
mais ça,
le texte.
Si vous permettez, c'est un autre débat. Donc ça, il faudrait qu'on fasse des émissions sur l'école. Ça fait partie du débat, on l'a bien compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter pour finir, Alexandre Ribeyron, l'IPEF, voilà, qui est peut-être moins connu que les AFC ou Vigigender. Voilà, il vous nous reste une ou deux minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, enfin, qu'est-ce que c'est que l'IPEF et puis peut-être comment on peut rejoindre cette.
Oui, tout à fait. Donc, l'IPEF, c'est l'Institut pour l'éducation dans la famille. Donc, c'est une association qui fait de la formation. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est de la formation participative. C'est-à-dire qu'on travaille à partir d'études de cas sur des thématiques liées donc à la famille ou à l'éducation. Vous avez un cycle, par exemple, petite enfance. Vous avez un cycle adolescence. Vous avez aussi un cycle pour les couples. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, d'abord, vous préparez justement le cas à étudier, qui est une histoire dans laquelle vous devez voir justement ce qui va bien, ce qui va moins bien. Vous le préparez d'abord en couple. Puis ensuite, vous avez une discussion en petite équipe, c'est-à-dire 5-6 couples. Vous vous réunissez, vous échangez. Et enfin, dans un troisième temps, vous avez une réunion général avec un intervenant qui est spécialiste du cas et de la thématique qui est abordée à travers ce cas. Et je trouve que l'intérêt de l'IPEF, c'est justement nous, dans nos familles, on a nos problèmes, on a le nez dans le guidon. Et ça fait du bien de temps en temps de prendre du recul, de regarder un problème qui n'est pas directement le nôtre. Hein, on ne va pas vous donner des recettes toutes faites, mais on va vous apprendre à analyser ce que vous vivez à travers des cas d'autrui. Et je trouve que c'est extrêmement formateur, parce que parfois, ben, on est un petit peu démunis face à l'adolescence, etc., ou aux jeunes enfants, ou dans notre vie de couple. Donc c'est vraiment une association qui offre une formation très très intéressante pour les familles.
Voilà, l'IPEF, les AFC, Vigigender, merci beaucoup d'être venu ce matin à tous nos invités pour nous parler donc de cette actualité de la famille en cette année d'élection présidentielle et à l'occasion donc de cette primaire des Républicains. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.